Deuxième partie. Chapitre 3. Mariama finit de coiffer sa cliente, vaporisa de la laque sur ses cheveux et, lorsqu'elle fut partie, annonça « Je vais chez le chinois. » Aïcha et Halima lui dirent ce qu'elle désirait. « Poulet très épicé du général Tiao, aile de poulet, poulet à l'orange. » Avec la rapidité de ceux qui répètent tous les jours la même chose. « Vous voulez quelque chose ?» demanda Mariama à Ifemelu. « Non, merci. »« Tes cheveux prennent longtemps. Tu as besoin de manger, » dit Aïcha. « Tout va bien. J'ai une barre de muesli, » dit Ifemelu. Elle avait aussi des carottes naines dans un sac ziploc, mais n'avait encore goûté qu'à son chocolat fondu. « Quel genre de barre ?» demanda Aïcha. Ifemelu montra la barre, bio, 100% céréales complètes avec de vrais fruits. « C'est pas de la nourriture !» se moqua Halima, qui tend des yeux la télévision. « Elle est ici depuis 15 ans, Halima !» dit Aïcha comme si la durée du séjour en Amérique expliquait pourquoi Ifemelu mangeait une barre aux céréales. « 15 ans ? Beaucoup de temps ?» dit Halima. Aïcha attendit que Mariama soit partie pour prendre son téléphone portable dans sa poche. « Désolée, je fais appel rapide, » dit-elle, et elle sortit. Son visage s'était éclairé quand elle revint. Il était empreint d'une beauté régulière et souriante après cette conversation téléphonique, une grâce qu'Ifemelu n'avait pas remarquée jusque-là. « Emeka travaille tard aujourd'hui. Seulement Tijoke vient te voir, avant que nous avons fini, » dit-elle. Comme si Ifemelu et elle avaient tout arrangé ensemble. « Écoutez, ce n'est pas la peine de leur demander de venir. Je ne saurais même pas quoi leur dire, » protesta Ifemelu. « Tu dis Tijoke, Igbo peut marier, pas Igbo. »« Aïcha, je ne peux pas lui dire de vous épouser. Il vous épousera s'il en a envie. »« Ils ont envie de se marier avec moi, mais je suis pas Igbo. » Les yeux d'Aïcha étincelaient. Cette fille devait être un peu perturbée mentalement. « C'est ce qu'ils vous ont dit ?» demanda Ifemelu. « Emeka dit que sa mère lui dit que s'il se marie avec une Américaine, elle se tue, » dit Aïcha. « Ce n'est pas bien. Mais moi, je suis africaine. Alors peut-être ne se suicidera-t-elle pas s'il vous épouse ?» Aïcha la regarda d'un air ébahi. « La mère de ton ami veut bien qu'il t'épouse ?» Ifemelu pensa d'abord à Blaine, puis comprit qu'Aïcha parlait de son prétendu petit ami. « Oui, elle n'arrête pas de nous demander quand nous allons nous marier. » Elle s'étonna du naturel avec lequel elle répondait, comme si elle s'était convaincue elle-même qu'elle ne vivait pas sur des souvenirs émoussés par 13 années d'absence. Mais cela aurait pu être vrai. La mère d'Obinze l'aimait bien, au fond. Dit Aïcha avec une envie bienveillante. Un homme à la peau parcheminée et grise, couronné d'une masse de cheveux blancs, entra avec un plateau de plastique chargé de potions à base de plantes qu'il cherchait à vendre. « Non, non, non !» lui dit Aïcha, la paume levée comme pour lui barrer le chemin. L'homme battit en retraite. Ifemelu le plaignit, il avait l'air affamé dans son vieux dashiki. Et elle se demanda ce qu'il pouvait retirer de ses ventes. Elle aurait dû lui acheter quelque chose. « Tu parles Igbo à Tijoke. Il t'écoutera, » reprit Aïcha. « Tu parles Igbo ?»« Bien sûr que je parle Igbo, » répondit Ifemelu sur la défensive, se demandant si Aïcha insinuait à nouveau que l'Amérique l'avait changé. « Doucement !» ajouta-t-elle quand Aïcha passa un peigne fin à travers une mèche de ses cheveux. « Tes cheveux raides !» dit Aïcha. « Ils ne sont pas raides !» dit Ifemelu d'un ton sec. « Vous n'utilisez pas le peigne qu'il faut. » Et elle retira le peigne de la main d'Aïcha et le posa sur la table. Ifemelu avait grandi dans l'ombre des cheveux de sa mère. Ils étaient noirs-noirs, si abondants qu'ils absorbaient deux flacons de démêlant quand on la coiffait, si épais qu'il leur fallait rester des heures entières sous le casque du séchoir. Et quand enfin libérés des bigoudis de plastique rose, ils s'échappaient en une masse libre et volumineuse, ils se répandaient jusqu'en bas de son dos comme une fête. Son père les appelait sa couronne de gloire.
« Est-ce que ce sont de vrais cheveux ?»
demandaient des inconnus qui tendaient la main pour les toucher avec respect. D'autres disaient « Êtes-vous de la Jamaïque ?» Comme si seul un sang étranger pouvait expliquer une chevelure aussi opulente qui ne s'éclaircissait pas aux tempes. Enfant, Ifemelu se regardait souvent dans la glace et tirait sur ses cheveux, les déroulait, souhaitant désespérément qu'ils deviennent semblables à ceux de sa mère, mais ils demeuraient rêches et poussaient difficilement. Les coiffeuses disaient qu'ils étaient coupants comme des couteaux. Un jour, l'année de ses 10 ans, sa mère revint du travail avec un air différent. Ses vêtements étaient les mêmes, une robe marron ceinturée à la taille, mais son visage était rougi. Ses yeux avaient un regard vague. « Où sont les grands ciseaux ?» demanda-t-elle, et quand Ifemelu les lui eut apportés, elle les leva vers sa tête et, poignée par poignée, coupa tous ses cheveux. Ifemelu regardait, figé sur place. Les cheveux gisaient sur le sol comme de l'herbe sèche. « Apporte-moi un grand sac, » dit sa mère. Ifemelu obéit, frappée de stupeur devant ce qui arrivait soudain et qu'elle ne comprenait pas. Elle regarda sa mère faire le tour de l'appartement, rassembler tous les objets religieux catholiques, les crucifix accrochés au mur, les rosaires enfouis dans les tiroirs, les missels rangés sur les rayonnages. Sa mère les fourra tous dans le sac en plastique qu'elle emporta dans la cour derrière la maison, marchant d'un pas précipité, son regard déterminé perdu au loin. Elle alluma un feu près du tas d'ordures, à l'endroit où elle brûlait ses serviettes hygiéniques, et commença par y jeter ses cheveux enveloppés dans un vieux journal, puis, l'un après l'autre, les objets religieux. Des volutes de fumée grise s'élevèrent dans l'air. Ifemelu se mit à pleurer, parce qu'elle sentait qu'il s'était passé quelque chose, et que la femme, debout près du feu, qui l'arrosait de pétrole dès qu'il diminuait et se reculait quand il flambait, cette femme chauve, au regard vide, ne pouvait pas être sa mère. En la voyant regagner la maison, Ifemelu eut un mouvement de recul, mais sa mère la serra dans ses bras.
« Je suis sauvée !» dit-elle. « Madame Ocho est venue me convertir cet après-midi pendant la récréation des enfants, et j'ai reçu le Christ. Les choses anciennes ont disparu, et tout aujourd'hui est nouveau. Que Dieu soit loué. Dimanche, nous commencerons à fréquenter l'église de la résurrection des saints. C'est une église qui croit en la Bible, une église vivante, pas comme celle de Saint-Dominique. »
Les paroles de sa mère ne lui appartenaient pas. Elle les prononçait avec raideur, d'une manière qui n'était pas la sienne. Même sa voix, habituellement haut-perchée et féminine, était devenue profonde et rauque. Cet après-midi-là, Ifemelu vit l'essence intime de sa mère s'envoler. Avant, sa mère récitait son chapelet une fois de temps en temps, se signait avant les repas, portait de jolies images de saints autour du cou, chantait des cantiques en latin et riait quand le père d'Ifemelu se moquait de son horrible prononciation. Elle riait aussi chaque fois qu'il disait « Je suis un agnostique respectueux de la religion » et qu'il avait de la chance d'être marié avec elle. Car bien qu'il n'allât à l'église que pour les enterrements et les mariages, il irait au ciel porté par la foi de sa femme. Mais, à partir de ce jour-là, son Dieu changea. Il devint exigeant. Les cheveux dénoués l'offensaient. Danser l'offensait. Elle se mit à faire du troc avec lui, offrant de jeûner en échange de son bien-être, d'un avancement dans son travail, de sa bonne santé. Elle jeûna jusqu'à devenir squelettique, des jeûnes complets le week-end et de l'eau le soir durant les jours de la semaine. Le père d'Ifemelu la regardait d'un air inquiet, la suppliant de manger un peu plus, de jeûner un petit peu moins, et il lui parlait toujours avec ménagement, afin qu'elle ne le traite pas de suppôt du diable, comme elle l'avait fait avec une cousine qui séjournait chez eux. « Je jeûne pour la conversion de ton père », disait-elle souvent à Ifemelu. Pendant des mois, L'atmosphère familiale ressembla à une vitre fêlée. Chacun marchait sur la pointe des pieds autour de sa mère, qui était devenue une étrangère, maigre, osseuse et sévère. Ifemelu s'inquiétait de la voir un jour simplement se briser et mourir. Puis, par un austère samedi saint, le premier samedi saint calme de la vie d'Ifemelu, sa mère sortit en courant de la cuisine et dit « J'ai vu un ange !» Avant, tout le monde se serait affairé. Il y aurait eu des marmites plein la cuisine, une flopée de parents dans l'appartement, et Ifemelu et sa mère auraient assisté à la messe du soir, brandi des cierges allumés, chanté au milieu d'une mer de flammes vacillantes, puis elle serait rentrée à la maison, aurait continué à faire la cuisine pour le grand déjeuner de Pâques. Mais l'appartement était silencieux. Les parents n'étaient pas venus, et le déjeuner serait l'habituel ragoût accompagné de riz. Ifemelu était dans le salon avec son père. Et quand sa mère dit « J'ai vu un ange !» Ifemelu perçut une lueur d'exaspération dans les yeux de celui-ci, un éclat furtif. « Que s'est-il passé ? » demanda-t-il sur le ton apaisant que l'on prend avec un enfant, comme si se prêter au délire de sa femme pouvait les faire disparaître. Sa mère leur rapporta la vision qu'elle venait d'avoir. La figure flamboyante d'un ange près de la cuisinière, tenant un livre orné de fils rouges, lui enjoignant de quitter l'église de la résurrection des saints parce que le pasteur était un sorcier qui participait à des réunions démoniaques la nuit au fond de la mer. « Tu devrais écouter l'ange, » dit son père. C'est ainsi que sa mère abandonna l'église et laissa repousser ses cheveux, mais cessa de porter des colliers et des boucles d'oreilles parce que les bijoux, d'après le pasteur de Miracle Spring, était impie et indigne d'une femme de vertu. Peu après, le même jour que le coup d'État raté, alors que les commerçants qui habitaient l'étage en dessous étaient en pleurs parce que le coup d'État aurait sauvé le Nigeria et que les vendeuses du marché auraient eu des postes de ministres, sa mère eut une nouvelle vision. Cette fois, l'ange lui apparut dans sa chambre, au-dessus de la penderie, et lui dit de quitter Miracle Spring et de suivre la Guiding Assembly. Lors du premier service auquel Ifemelu assista en compagnie de sa mère, dans une salle de congrès au sol de marbre, au milieu d'une assistance parfumée et de l'écho de voix sonores et chaudes, Ifemelu observa sa mère et vit qu'elle pleurait et riait en même temps. Dans cette église, où déferlait l'espoir, où l'on applaudissait et tapait des pieds, où Ifemelu imaginait des anges fortunés tournoyant au-dessus d'elle, l'esprit de sa mère avait trouvé un havre. C'était une église pleine de nouveaux riches. La petite voiture de sa mère dans le parking était la plus vieille, avec sa peinture ternie et de multiples éraflures. Si elle faisait ses dévotions en compagnie de fidèles prospères, disait-elle, alors Dieu la bénirait comme il les avait bénis. Elle recommença à porter des bijoux, à boire sa Guinness. Elle ne jeûnait qu'une fois par semaine et répétait souvent « Mon Dieu me dit » et « Ma Bible dit » comme si ceux des autres n'étaient pas seulement différents mais dans l'erreur. Sa réaction à un « bonjour » ou à un « bon après-midi » était un joyeux « Dieu vous bénisse ». Son Dieu devint clément et ne s'offusquait pas de recevoir des ordres. Tous les matins, elle réveillait la maisonnée pour prier et il s'agenouillait sur le tapis rugueux de la salle de séjour où il chantait, frappait des mains, recouvrait la journée à venir du sang du Christ et les paroles de sa mère perçaient alors l'immobilité de l'aube. « Dieu, mon Père céleste, je te demande de remplir cette journée de bienfaits et de me prouver que tu es Dieu. Seigneur, je compte sur toi pour assurer ma prospérité. Ne laisse pas le diable vaincre. Ne laisse pas mes ennemis triompher de moi. » Le père d'Ifemelu déclara un jour que ses prières étaient des batailles délirantes avec d'imaginaires calomniateurs. Mais il insistait pour qu'Ifemelu se réveille tôt pour prier. « Ça fait plaisir à ta mère, » disait-il. À l'église, lorsque venait le moment de témoigner, sa mère était la première à se hâter vers l'autel.
« J'avais un rhume ce matin, » commençait-elle. « Mais quand le pasteur Gideon s'est mis à prier, il a diminué. Maintenant, il a disparu. Que Dieu soit loué !»
La congrégation s'écriait « Alléluia !» et d'autres témoignages suivaient.
« Je n'ai pas étudié parce que j'étais malade. » Et pourtant, j'ai réussi mes examens haut la main. J'ai eu la malaria et prié, et j'ai été guérie. Ma toux a disparu quand le pasteur a commencé à prier.
Mais sa mère était toujours la première, tout sourire, baignée de la lumière du salut. Plus tard, au cours du service, lorsque le pasteur Gideon se dressait dans son costume épaulé et ses chaussures pointues et disait « Notre Dieu n'est pas un Dieu pauvre. Amen !» C'est notre destin de prospérer. Amen. La mère d'Iphémélou levait haut le bras vers le ciel et disait Amen. Seigneur, Amen. Iphémélou ne pensait pas que Dieu avait donné au pasteur Gideon cette grande maison et toutes ses voitures. Il les avait probablement achetées avec l'argent des trois quêtes de chaque service. Et elle ne pensait pas que Dieu ferait pour tous ce qu'il avait fait pour le pasteur Gideon. Parce que c'était impossible. Mais elle était heureuse de voir sa mère manger normalement à présent. Son regard avait retrouvé sa vivacité. Il y avait une gaieté nouvelle dans son attitude, et elle s'attardait à nouveau après le repas à table avec son père, et elle chantait à pleine voix dans son bain. Sa nouvelle église l'absorbait, mais elle ne la détruisait pas. Elle n'était plus imprévisible, et il était facile de lui mentir.
« Je vais à l'étude de la Bible » et « Je vais à la confrérie »
était pour Iphémélou dans son adolescence des excuses commodes pour sortir sans qu'on lui pose de questions. Iphémélou montrait peu d'intérêt pour l'Église, guère soucieuse de faire des efforts pour se rapprocher de la religion, peut-être parce que sa mère en faisait déjà tant. Et pourtant la foi de sa mère la réconfortait. C'était dans son esprit un nuage blanc qui se déplaçait doucement au-dessus de sa tête, en même temps qu'elle. Jusqu'au jour où le général entra dans leur vie. Tous les matins, la mère d'Iphémélou priait pour le général. Elle disait « Père céleste, je te demande de bénir le mentor d'Oudjou. Que ses ennemis ne triomphent jamais de lui. » Ou bien « Nous répandons sur le mentor d'Oudjou le précieux sang de Jésus. » Et Iphémélou marmonnait quelque chose d'indistinct en guise d'amen. Sa mère prononçait le mot « mentor » d'un ton lourd de défi, comme si la force de sa conviction allait réellement faire du général un mentor et aussi transformer le monde en un lieu où les jeunes médecins pourraient se payer la nouvelle Mazda de tante Oudjou. Cette voiture verte rutilante d'un aérodynamisme impressionnant. Chetachi, qui habitait l'étage au-dessus d'eux, demanda à Iphémélou « Ta mère dit que le mentor de tante Oudjou lui a fait un prêt pour la voiture ?»«
Oui. »«
Dis donc, tante Oudjou a de la chance, oh ?» dit Chetachi.
Son sourire entendu n'échappa pas à Iphémélou. Chetachi et sa mère avaient sans doute déjà jasé au sujet de la voiture. C'étaient des jalouses, des bavardes, qui ne rendaient visite aux gens que pour voir ce qu'ils possédaient, pour évaluer leurs nouveaux meubles ou leurs nouveaux appareils électroniques.
« Dieu devrait bénir cet homme, oh !»«
J'espère moi aussi rencontrer un mentor quand j'aurai mon diplôme, » dit Chetachi. Iphémélou s'irritait des piques lancées par Chetachi. Mais c'était la faute de sa mère, toujours si désireuse de raconter aux voisins son histoire de mentor. Elle n'aurait pas dû. Ce que faisait tante Oudjou ne regardait personne. Iphémélou l'avait entendu dire à quelqu'un dans la cour derrière la maison
« Tu vois, le général voulait être docteur quand il était jeune, et maintenant il soutient les jeunes docteurs. Dieu l'utilise vraiment pour aider les gens. »
Et elle semblait sincère. Joyeuse, convaincante. Elle croyait à ce qu'elle disait. Iphémélou ne comprenait pas cette capacité qu'avait sa mère de se raconter des histoires devant une réalité qui n'avait pratiquement rien à voir avec sa propre réalité. quand Tante Uju leur parla pour la première fois de son nouveau travail. L'hôpital n'avait pas de poste de médecin vacant, mais le général a demandé d'en créer un pour moi, leur dit-elle. La mère d'Ifemelu dit aussitôt « C'est un miracle !» Tante Uju sourit, un sourire tranquille que rien ne semblait troubler. Elle ne pensait pas, naturellement, qu'il s'agissait d'un miracle, mais ne voulait pas le dire. Ou peut-être y avait-il réellement quelque chose de miraculeux dans sa nouvelle situation de consultante à l'hôpital militaire de Victoria Island et dans sa nouvelle maison de Dolphin Estate, cet ensemble d'habitations d'inspiration étrangère, certaines peintes en rose, d'autres d'un bleu d'azur, entourées d'un parc au gazon aussi luxuriant qu'un tapis neuf et de bancs où les gens venaient s'asseoir. Une rareté même dans l'île. À peine quelques semaines auparavant, elle était une jeune diplômée et tous ses camarades parlaient d'aller passer leurs examens de médecine en Amérique ou en Angleterre, car l'autre choix était de dégringoler dans la désolation du chômage. Le pays n'avait plus d'espoir. Les voitures restaient coincées pendant des jours entiers sous le soleil à attendre de l'essence. Les retraités brandissaient des pancartes défraîchies réclamant leur pension. Des enseignants se rassemblaient, annonçant une grève de plus. Mais tante Uju ne voulait pas partir. Depuis aussi longtemps qu'Ifemelu s'en souvenait, elle avait rêvé de posséder une clinique privée. Et elle se cramponnait à ce rêve. « Le Nigeria ne va pas rester indéfiniment dans cet état. Je suis sûre que je vais trouver un travail à mi-temps. Et ce sera dur, oui, mais un jour j'ouvrirai ma clinique. Et dans l'île !» avait dit tante Uju à Ifemelu. Puis elle avait assisté au mariage d'une amie. Le père de la mariée était un vice-maréchal de l'air, et le bruit courait que le chef de l'État viendrait peut-être. Et tante Uju avait dit en plaisantant qu'elle allait lui demander de faire d'elle un médecin militaire à Aso Rock. Il ne vint pas, mais nombre de ses généraux étaient présents, et l'un d'eux demanda à son aide de camp d'appeler tante Uju, de lui demander de venir jusqu'à sa voiture dans le parking après la réception. Et quand elle arriva près de la Peugeot foncée, avec un petit fanion à l'avant et dit « Bonsoir, monsieur », à l'homme assis à l'arrière, celui-ci répondit « Tu me plais, je veux m'occuper de toi ». Peut-être y avait-il quelque chose de miraculeux dans ces mots. « Tu me plais, je veux m'occuper de toi », pensa Ifemelu, mais pas de la manière dont sa mère l'entendait.
« Un miracle ! Dieu tient parole !» dit la mère d'Ifemelu ce jour-là, les yeux humides de foi.
Elle dit sur le même ton « Le diable est un menteur. Il essaye de nous empêcher d'être heureux. Il n'y réussira pas !» quand le père d'Ifemelu perdit son travail à l'agence fédérale. Il avait été viré pour avoir refusé d'appeler sa nouvelle patronne « Mamie ». Il rentra à la maison plus tôt que d'habitude, amer et hébété, sa lettre de licenciement à la main. Déplorant qu'un homme adulte soit obligé d'appeler une femme adulte « Mamie » parce qu'elle avait décidé que c'était la meilleure façon de lui manifester du respect.
« 12 années de loyaux services ! C'est absurde !»
La mère d'Ifemelu lui tapota le dos, lui dit que Dieu lui fournirait un autre job et que d'ici là, il vivrait de son salaire d'assistante du proviseur. Il se lança tous les matins dans la recherche d'un travail, les dents serrées et la cravate fermement nouée, et Ifemelu se demandait s'il contactait au hasard diverses sociétés pour tenter sa chance. Mais bientôt, il commença à rester à la maison en peignoir et maillot de corps, traînant sur le canapé défraîchi à côté de la stéréo.
Tu n'as pas pris de bain ce matin ?
Lui demanda sa mère un après-midi, en revenant du travail l'air épuisé, serrant des dossiers contre sa poitrine, des taches de transpiration sous les bras. Puis elle ajouta d'un ton irrité :
S'il suffisait d'appeler quelqu'un mamie pour toucher ton salaire, tu aurais dû le faire.
Il ne répondit rien. Pendant un moment, il sembla perdu, recroquevillé sur lui-même et désorienté. Ifemelu s'attrista pour lui. Elle l'interrogea sur le livre posé à plat sur ses genoux, un livre à l'aspect familier dont elle savait qu'il l'avait déjà lu. Elle espérait qu'il lui ferait un de ses longs discours sur l'histoire de la Chine, par exemple, et elle écouterait à moitié, comme à l'accoutumée, tout en le réconfortant. Mais il n'était pas d'humeur à parler. Il haussa les épaules comme pour dire qu'elle pouvait regarder le livre si elle le désirait. Les paroles de sa mère le blessaient trop facilement. Il lui prêtait trop d'attention, ses oreilles toujours prêtes à capter sa voix, les yeux toujours fixés sur elle. Récemment, avant son renvoi, il avait dit à Ifemelu : « Le jour où j'aurai ma promotion, j'achèterai à ta mère un cadeau inoubliable. » Et quand elle lui avait demandé quoi, il avait souri et répondu d'un ton mystérieux : « Ce sera une surprise. » En le regardant assis, silencieux sur le canapé, elle se dit qu'il ressemblait vraiment à ce qu'il était. Un homme aux espoirs déçus, un fonctionnaire intellectuellement moyen qui aurait voulu avoir une vie différente de celle qu'il avait, qui avait souhaité être plus instruit qu'il ne l'était. Il racontait souvent qu'il n'avait pas pu aller à l'université parce qu'il avait dû travailler pour entretenir ses frères et sœurs, et que des camarades de lycée moins intelligents que lui avaient maintenant des doctorats. Il parlait un anglais classique, élégant. Leur domestique le comprenait à peine, mais était néanmoins très impressionné. Un jour, leur ancienne domestique, Jacinta, était entrée dans la cuisine et s'était mise à applaudir doucement en disant à Ifemelu : « Tu aurais dû entendre tout à l'heure le langage de ton père, oh Diego !» Parfois, Ifemelu l'imaginait dans une salle de classe, dans les années 50, sujet colonial trop zélé, portant un uniforme mal ajusté de coton bon marché, se démenant pour impressionner ses professeurs missionnaires. Même son écriture était maniérée, tout en courbe et fioriture, d'une monotone élégance digne d'un texte imprimé. Il avait reproché à Ifemelu quand elle était enfant de se montrer récalcitrante, rétive, intransigeante, des mots qui donnaient à ses petites actions un aspect héroïque et presque digne d'éloge. Mais plus tard, son anglais affecté l'avait agacé, car ce n'était à ses yeux qu'un paravent, un rempart contre l'insécurité. Il était obsédé par ce qu'il n'était pas, diplômé de l'université, membre de la classe moyenne supérieure, et ses mots prétentieux devenaient son armure. Elle préférait l'entendre parler Igbo. C'était le seul moment où il semblait oublier ses angoisses. La perte de son emploi l'avait rendu plus silencieux et un mur ténu s'était élevé entre le monde et lui. Il ne marmonnait plus « une nation de fourbes irréductibles » quand les nouvelles du soir débutaient sur NTA, ne tenait plus de longs discours sur la façon dont le gouvernement de Babangida avait réduit les Nigérians à l'état de pauvres imbéciles, et il ne taquinait plus sa mère. Et surtout, il commença à se mêler aux prières du matin. Il ne l'avait jamais fait auparavant. Sa mère l'y avait incité un jour, avant de se rendre dans leur ville natale. « Prions et répandons sur les routes le sang de Jésus !» Et il avait répliqué que les routes seraient plus sûres, moins glissantes, si elles n'étaient pas recouvertes de sang. À la suite de quoi, Ifemelu avait failli s'étrangler de rire, tandis que sa mère prenait un air réprobateur. Mais il n'allait toujours pas à l'église. Avant, lorsqu'Ifemelu et sa mère revenaient de l'église, elle le trouvait assis par terre dans le salon, occupé à passer en revue ses 33 tours, chantant au son de la musique. Il avait toujours l'air reposé, comme si se trouver seul avec sa musique l'avait ragaillardi. Aujourd'hui, après avoir perdu sa situation, il écoutait rarement ses disques. Elle rentrait à la maison et le trouvait assis à la table de la salle à manger, penché sur des feuilles volantes, en train d'écrire aux journaux et aux magazines. Et Ifemelu savait que si l'occasion se représentait, il appellerait sa patronne Mommy. C'était un dimanche matin, tôt, et quelqu'un frappait violemment à la porte d'entrée. Ifemelu aimait les dimanches matins, le lent passage du temps quand, habillé pour aller à l'église, Elle attendait dans le séjour avec son père pendant que sa mère se préparait. Tantôt ils bavardaient, tantôt ils restaient silencieux, dans un silence partagé et agréable, comme ce matin-là. Seul leur parvenait le ronronnement du réfrigérateur depuis la cuisine, jusqu'à ce qu'ils entendent ce martèlement à la porte. Une interruption brutale. Ifemelu alla ouvrir et se trouva face au propriétaire, un homme replet, avec des yeux globuleux injectés de sang, connu pour commencer sa journée par un verre de gin sec. Son regard passa au-dessus d'Ifemelu pour se porter vers son père, et il cria « Ça fait maintenant 3 mois. J'attends toujours mon argent !» Sa voix était familière à Ifemelu, une vocifération métallique qui venait en général des appartements de leurs voisins, de quelque part ailleurs. Mais à présent, il était chez eux. La scène la bouleversa. Le propriétaire qui hurlait devant leur porte et son père muet, lui opposant un visage de pierre. Ils n'avaient jamais été en retard pour le loyer auparavant. Ils avaient vécu dans cet appartement toute leur vie. Il était étriqué, les murs de la cuisine étaient noircis par la fumée des lampes à pétrole, et elle était gênée quand ses amis de l'école venaient la voir. Mais ils n'avaient jamais été en retard pour le loyer. « Quel butor ce type !» dit son père après le départ du propriétaire, et il n'ajouta rien d'autre. Il n'y avait rien à dire. Il devait le loyer. Sa mère apparut en chantant, copieusement parfumée, le visage brillant sous une couche de poudre d'un ton trop clair. Elle tendit au père d'Ifemelu son poignet où pendait un mince bracelet d'or dont le fermoir était ouvert. « Uju nous rejoint après l'église pour nous emmener voir la maison à Dolphin Estate, » dit sa mère. « Tu viens avec nous ?»« Non. » dit-il sèchement, comme si la nouvelle vie de tante Uju était un sujet qu'il préférait éviter. « Tu devrais venir, » dit-elle, mais il ne réagit pas. Agrafa soigneusement le bracelet autour de son poignet et lui dit qu'il avait vérifié l'eau dans sa voiture. « Dieu est fidèle. Regarde Uju qui peut se payer une maison dans l'île, » dit sa mère d'un ton joyeux. « Maman, mais tu sais bien qu'Uju ne paye pas un kobo pour habiter là-bas, » dit Ifemelu. Sa mère lui jeta un coup d'œil. « Tu as repassé cette robe ?»« Elle n'a pas besoin d'être repassée. »« Elle est froissée. Ngwa, va la repasser. Au moins, il y a de l'électricité. Sinon, change-toi. » Ifemelu se leva à contre-cœur. « Cette robe n'est pas froissée. Va la repasser. » Pas besoin de montrer à tout le monde que les choses sont difficiles pour nous. Nous ne sommes pas les plus à plaindre. Aujourd'hui, c'est le dimanche du travail avec sœur Ibinabo. Aussi, dépêche-toi et partons. Sœur Ibinabo avait du pouvoir. Et parce qu'elle prétendait l'utiliser avec discrétion, elle n'en était que plus puissante. Le pasteur, disait-on, faisait tout ce qu'elle lui demandait. La raison n'en était pas claire. Certains disaient qu'elle avait fondé l'église avec lui. D'autres qu'elle détenait un terrible secret sur son passé, d'autres encore qu'elle avait plus de puissance spirituelle que lui, mais étant une femme, ne pouvait pas être pasteur. Elle pouvait empêcher l'autorisation pastorale à un mariage si elle le voulait. Elle connaissait tout et tout le monde et semblait être partout en même temps, avec son visage buriné, comme si la vie l'avait longtemps malmenée. Il était difficile de lui donner un âge, peut-être 50 ou 60 ans, avec son corps maigre et nerveux, son visage fermé comme une coquille. Elle ne riait jamais, mais souriait souvent, du mince sourire d'une dévote. Les mères manifestaient un respect craintif devant elle. Elles lui apportaient des petits cadeaux, s'empressaient de lui confier leur fille le dimanche du travail. Sœur Ibinabo, sauveuse de la gente féminine. On lui demandait de parler aux adolescentes troublées et fauteuses de troubles. Certaines mères demandaient que leur fille aille vivre avec elles dans l'appartement derrière l'église. Mais Ifemelu avait toujours senti bouillonner chez sœur Ibinabo une hostilité profondément enracinée envers les jeunes filles. Sœur Ibinabo ne les aimait pas. Elle se bornait à les observer et à les mettre en garde, comme si elle était offensée par ce qu'il y avait encore de neuf en elle, et qui était chez elle depuis longtemps desséché.
« Je t'ai vu porter un pantalon moulant samedi dernier, » dit sœur Ibinabo à l'une d'elles, Christy, dans un murmure exagéré, assez bas pour prétendre être un murmure, mais assez haut pour que tout le monde l'entende.
« On peut tout accepter, mais tout n'est pas acceptable. Une fille qui porte des pantalons étroits cherche à commettre le péché de la tentation. Il vaut mieux l'éviter. »
Christy hocha la tête, humble, gracieuse, acceptant l'humiliation. Dans la sacristie de l'église, les deux minuscules fenêtres ne laissaient pénétrer que peu de lumière, et l'électricité était toujours allumée pendant la journée. Des piles d'enveloppes destinées à la collecte de fonds étaient posées sur la table, à côté d'une montagne de papier de soie de couleur, aussi léger qu'une gaze. Les filles s'organisèrent. Bientôt, plusieurs d'entre elles se mirent à écrire sur les enveloppes, d'autres à découper, coller et façonner les feuilles de papier de soie en forme de fleurs, qu'elles enfilaient pour en faire des guirlandes vaporeuses. Le dimanche suivant, au service de Thanksgiving, les guirlandes orneraient le cou massif de Chief Omenka et ceux plus menus des membres de sa famille. Il avait offert deux camionnettes neuves à l'église.
« Rejoins ce groupe, Ifemelu, » dit sœur Ibinabo.
Ifemelu croisa les bras et, comme souvent, quand elle s'apprêtait à dire quelque chose qu'elle aurait mieux fait de garder pour elle, les mots jaillirent de sa gorge.
« Pourquoi devrais-je fabriquer des décorations pour un voleur ?»
Sœur Ibinabo la regarda d'un air interdit. Il y eut un moment de silence. Les autres filles se tournèrent vers elle, attendant la suite.
« Qu'est-ce que tu as dit ?»
demanda doucement sœur Ibinabo, laissant à Ifemelu une chance de s'excuser et de ravaler ses paroles. Mais Ifemelu était incapable de s'arrêter, le cœur battant, lancé à une allure précipitée.
« Chief Omenka est un 419 et tout le monde le sait, » dit-elle. « Cette église est remplie de 419. Pourquoi prétendre que ce hall n'a pas été construit avec de l'argent sale ?»«
C'est le travail de Dieu, » dit calmement sœur Ibinabo. « Si tu ne peux pas faire le travail de Dieu, alors tu dois t'en aller. Va-t'en. » Ifemelu sortit à la hâte de la pièce, franchit la grille d'entrée et se dirigea vers l'arrêt d'autobus, certaine que d'une minute à l'autre, l'histoire reviendrait aux oreilles de sa mère dans le bâtiment principal de l'église. Elle avait gâché la journée. Elles auraient dû aller voir la maison de tante Uju et faire un bon déjeuner. À présent, sa mère serait d'une humeur de chien. Elle aurait mieux fait de se taire. Après tout, elle avait participé à la confection de guirlandes pour d'autres 419 dans le passé, des hommes qui avaient des sièges réservés au premier rang, des hommes qui offraient des voitures comme d'autres distribuaient des chewing-gums. Elle avait assisté à leur réception sans se faire prier. Elle avait mangé du riz, de la viande et du coleslaw, de la nourriture souillée par la fraude. Elle l'avait mangé en le sachant et ne s'était pas étouffée, n'avait même pas craint de s'étouffer. Pourtant, il s'était passé quelque chose de différent aujourd'hui. Quand sœur Ibinabo s'était adressée à Christy, avec ce mépris venimeux qu'elle qualifiait d'instruction religieuse, Ifemelu l'avait observée et lui avait trouvé une ressemblance avec sa mère. Sa mère était une personne plus simple et plus aimable, mais comme sœur Ibinabo, elle niait la réalité des choses. Elle aussi avait jeté le voile de la religion sur ses désirs mesquins. Soudain, Ifemelu avait souhaité par-dessus tout ne plus être dans cette petite pièce pleine d'ombre. Elle lui avait paru inoffensive auparavant, la foi de sa mère, baignée de grâce, mais ce n'était soudain plus le cas. Elle souhaita, un instant, que sa mère ne soit plus sa mère, et n'en ressentit ni culpabilité ni tristesse, mais une simple émotion mêlée de culpabilité et de tristesse. L'arrêt de l'autobus était étrangement désert, et elle imagina la foule qui s'y pressait habituellement en train de chanter et de prier dans les églises. Elle attendit le bus, hésitant à rentrer tout de suite chez elle ou à s'attarder quelque part ailleurs. Mieux valait rentrer
et affronter ce qu'il y avait à affronter. Sa mère lui tira l'oreille, presque gentiment, comme si elle voulait éviter de lui faire mal. Elle avait toujours fait comme ça depuis qu'Ifemelu était petite. « Je vais te battre !» disait-elle quand Ifemelu avait mal agi, mais elle ne la frappait jamais, se contentait de lui tirer mollement l'oreille. Cette fois-ci, elle la tira deux fois. Une première fois, puis une seconde, pour donner plus de poids à ses paroles. « Le diable se sert de toi. Tu dois prier pour l'en empêcher. Ne porte pas de jugement. Laisse à Dieu le soin de juger. » Son père dit, « Tu dois lutter contre ta tendance naturelle à la provocation, Ifemelu. Tu t'es fait remarquer à l'école par ton insubordination, et je t'ai dit que cela avait déjà nui à ton excellent livret scolaire. Inutile de créer une situation similaire à l'église. » « Oui, papa. » Quand tante Uju arriva, la mère d'Ifemelu lui raconta ce qui s'était passé. « Va donc faire la leçon à Ifemelu. Tu es la seule personne qu'elle écoute. Demande-lui ce que je lui ai fait pour qu'elle me mette ainsi dans l'embarras à l'église. Elle a insulté sœur Ibinabo. C'est comme insulter le pasteur. Pourquoi cette fille doit-elle toujours semer le trouble? J'ai toujours dit, en la voyant se comporter ainsi, qu'il aurait mieux valu qu'elle soit un garçon. Sœur, tu sais que son problème est qu'elle ne sait pas toujours quand elle doit se taire. Ne t'inquiète pas, je vais lui parler. » dit tante Uju, jouant les médiatrices, calmant la femme de son cousin. Elle s'entendait bien avec la mère d'Ifemelu, l'entente facile de deux personnes qui évitent soigneusement toute conversation d'une certaine profondeur. Tante Uju éprouvait peut-être de la gratitude pour la mère d'Ifemelu qui l'accueillait, lui accordait le statut particulier de parent à résidence. En grandissant, Ifemelu n'avait jamais eu l'impression d'être une enfant unique grâce aux cousins, oncles et tantes qui habitaient avec eux. Il y avait toujours des valises et des sacs dans l'appartement. Parfois, un ou deux parents dormaient par terre dans le salon pendant plusieurs semaines. La plupart appartenaient à la famille de son père, venus à Lagos apprendre un métier, étudier ou chercher un emploi, si bien que les gens de son village ne pouvaient maugréer contre leur frère qui n'avait qu'un enfant et ne voulait pas en élever d'autres. Son père avait un sentiment d'obligation envers eux. Il insistait pour que tout le monde soit rentré avant 8 heures du soir, s'assurer qu'il y avait assez à manger pour tous, et fermer la porte de sa chambre à clé, même quand il allait aux toilettes, de crainte que l'un d'eux y entre par mégarde et vole quelque chose. Mais tante Uju était différente. Trop intelligente pour dépérir dans ce trou perdu, disait-il. Il l'appelait sa plus jeune sœur, bien qu'elle fût l'enfant du frère de son père, et il s'était montré plus protecteur, moins distant avec elle. Quand il trouvait Ifemelu et tante Uju en train de bavarder, blottis dans le lit, il s'exclamait affectueusement « Vous deux !» Lorsque tante Uju partit étudier à l'université d'Ibadan, il dit à Ifemelu d'un ton presque mélancolique « Uju a eu sur toi une influence apaisante. » Il semblait voir dans leur proximité la preuve que son choix était le bon, comme s'il avait consciemment offert un cadeau à sa famille, un tampon entre sa femme et sa fille. Donc, dans la chambre, tante Uju disait à Ifemelu « Tu aurais dû confectionner la guirlande. Je t'ai déjà dit de ne pas débiter tout ce qui te passe par la tête. Il faut que tu apprennes ça. Tu ne dois pas tout dire. Pourquoi maman ne peut-elle apprécier les choses que tu reçois du général sans prétendre qu'elles viennent de Dieu ?»« Qui dit qu'elles ne viennent pas de Dieu ?» demanda tante Uju avec une moue sceptique. Ifemelu se mit à rire. D'après la légende familiale, Ifemelu, à l'âge de 3 ans, était une enfant boudeuse, qui hurlait dès que s'approchait un étranger. Mais la première fois qu'elle avait vu tante Uju, une gamine de 13 ans boutonneuse, Ifemelu s'était avancé vers elle, avait grimpé sur ses genoux et y était resté. Elle ignorait si c'était la réalité ou si elle était devenue vraie à force d'être répétée, cette jolie histoire du début de leur intimité. C'était Tante Oudjou qui cousait ses robes de petite fille, et quand Ifemelu était devenue plus grande, toutes les deux se plongeaient dans la lecture des magazines de mode, choisissant ensemble les modèles. Tante Oudjou lui apprit à écraser un avocat et à l'étaler sur son visage, à dissoudre du baume camphré dans de l'eau chaude et se pencher au-dessus de la vapeur, à sécher un bouton avec du dentifrice. C'est Tante Oudjou qui lui apporta des romans de James Hadley Chase, enveloppés dans du papier journal pour dissimuler les femmes à moitié nues qui ornaient leur couverture, qui lui passa les cheveux au fer chaud quand elle attrapa les poux de ses voisins, lui donna les explications nécessaires lorsqu'elle eut ses premières règles, complétant les sermons de sa mère bourrés de citations bibliques sur la vertu, mais dépourvus de détails pratiques concernant les crampes et les tampons. Quand Ifemelu fit la connaissance d'Obinze, elle raconta qu'elle avait rencontré l'amour de sa vie à Tante Oudjou, qui lui conseilla de lui permettre de l'embrasser et de la caresser, mais sans la pénétrer.